Le management RH en cabinet dentaire. Article fondé sur l'ouvrage Le manuel du chirurgien dentiste manager, les clés d'une équipe gagnante par Rodolphe Cochet. Rodolphe Cochet, enseignant universitaire en sociologie et psychologie du langage et spécialiste en communication d'entreprise, administrateur du premier pôle français de service en stratégie d'évaluation et de management du personnel administratif et clinique, des cabinets dentaires de groupe et consultants formateurs en management des ressources humaines en cabinet dentaire, considèrent très simplement que les chirurgiens dentistes n'ont pas de problèmes chroniques de gestion et d'organisation. Il n'y a que des problèmes ponctuels et humains de gestion du personnel. La réussite de leur cabinet ne peut passer que par la rationalisation, le management et le développement des compétences de leur équipe. Après avoir suivi et analysé 300 cabinets sur 5 ans, Rodolphe Cochet dresse donc le bilan des principales erreurs managériales identifiables dans la structure spécifique du cabinet dentaire, puis propose plusieurs pistes de résolution de ces difficultés. Comprendre le management. Manager, c'est transformer le travail des autres en performance durable, écrit le professeur Bernard Calambeau. Les notions de performance et d'efficacité sont donc primordiales, mais via et avec autrui. Assumer son rôle de patron. Nombre de praticiens reconnaissent et déplorent que la formation initiale, essentiellement clinique, ne prépare pas suffisamment, voire pas du tout, à la gestion efficace d'un cabinet et que le management s'apprenne sur le tas. Trop se laisse tenter par les recettes toutes faites d'un coaching généraliste, et peu adapté à la pratique dentaire, où le patient n'est pas un client comme les autres et où le service est à prendre au premier sens du terme et échoue à trouver la formule qui permettra à la fois de développer leur activité et de susciter l'adhésion de leurs équipes. Il n'est pas viable de prétendre diriger ou motiver une équipe si l'on n'a pas acquis au minimum 3 des 5 dimensions managériales préalables à tout exercice d'employeur. Communication, écoute attentivement, fournit les informations essentielles, s'exprime clairement, remporte l'adhésion. Leadership, inspire la confiance, motive les autres, donne le cap, favorise l'innovation et l'expression. Gestion de l'équipe, crée un climat favorable, se rend disponible, suscite l'engagement et la participation, favorise la formation et le développement des compétences. Gestion des tâches, sait définir objectifs et priorités, sait planifier les tâches, fait preuve de flexibilité, d'adaptabilité, sait déléguer efficacement. Gestion stratégique, anticipe les risques et opportunités, possède une vision à long terme, sait harmoniser ses décisions et sa vision, prend les bonnes décisions. Il peut être intéressant d'utiliser cette grille à la fois comme auto-évaluation et comme évaluation extérieure par vos équipes quant à vos performances, en notant chaque capacité sur 10 et en faisant la moyenne de chaque pôle, comme Cochet le fait pour les 300 cabinets étudiés dont les moyennes sont révélatrices. Tableau synoptique de la moyenne de compétences managériales des chirurgiens dentistes. Présentation par Paul. Communication 3,3. Écoute attentivement 3. Fournit les informations essentielles 3. Communique clairement 4. Remporte l'adhésion 3. Leadership 6. Inspire la confiance 8. Motive les autres 4. Donne le cap 7. Favorise l'expression de l'innovation 5. Gestion de l'équipe 2,8. Crée un climat favorable 4. Se rend disponible 4. Sollicite la participation 3. Favorise le développement des compétences 0. Gestion des tâches 3. Définit les objectifs et les priorités 5. Planifie les tâches 3. Fait preuve de flexibilité 3. Délègue efficacement 1. Gestion stratégique 7,5 anticipe les risques et les opportunités 7 possède une vision à long terme 8 articule les décisions à la vision 7 prend les bonnes décisions 8 Définir son profil de manager. Il est important de bien se connaître avant de prétendre connaître et diriger les autres. Cochet propose un test préalable afin de se situer dans le prisme managérial et de pouvoir par la suite améliorer les lacunes et renforcer les points positifs. Répondez par oui ou non instinctivement aux 60 questions suivantes. 1. Dans les discussions formelles ou informelles, j'aime diriger. 2. Je pense que dans toute relation, il y a toujours un gagnant et un perdant. 3. Je me mets en retrait face à l'agressivité. 4. Je sais écouter sans interrompre. 5. Je n'ai pas peur, honte d'exprimer mon ressenti. 6. Je me laisse souvent convaincre par les arguments des autres. 7. J'aime les discussions brèves et concises. 8. Je sais mener un débat. 9. Je m'oppose facilement à ce qui ne me convient pas. 10. Je ne supporte pas les conversations qui traînent en longueur. 11. Je cède facilement aux demandes. 12. J'ai une bonne capacité d'adaptation aux situations et personnalités différentes. 13. Je manque parfois de confiance en moi, dans mes relations aux autres. 14. Je coopère assez facilement. 15. Je suis plutôt critique envers les autres. 16. Je suis bon conseiller. 17. Je suis souvent dans le rapport de force. Dans un débat, j'aime convaincre plutôt qu'échanger. 18. J'aime donner des ordres. 19. Je cède et laisse facilement la parole aux autres. 20. Je sais reconnaître mes erreurs. 21. Je vais à l'essentiel dans mes discussions. 22. J'assume ma position hiérarchique face à mon personnel. 23. J'ai parfois du mal à prendre la parole en situation de conflit. 24. J'apaise les débats et situations conflictuelles. 25. Je peux être rusé, manipulateur, pour atteindre mon objectif. 26. On me fait souvent perdre mon temps avec des discussions sans intérêt. 27. Je vais naturellement vers l'autre lorsqu'il est en difficulté. 28. Je suis ou parais parfois agressif dans mes propos. 29. Je fais souvent des propositions pour améliorer les choses. 30. J'ai de l'influence, du pouvoir sur les autres et je sais en user. 31. Je préfère laisser à d'autres l'animation des réunions. 32. J'ai parfois, souvent, du mal à me concentrer sur le discours des autres. 33. Je dis facilement ce que je pense. 34. Je rends facilement service. 35. Je m'efface souvent lors des discussions. 36. On me reproche d'avoir l'esprit de contradiction. 37. Je ne suis pas du tout impressionnable. 38. J'ai parfois du mal à prendre des décisions. 39. Je suis toujours clair avec l'autre dans mes négociations. 40. J'anime souvent les discussions, alimente les débats. 41. Je suis ambitieux et audacieux. 42. Je change de sujet lorsque je suis mal à l'aise. 43. Je n'ai aucune difficulté à répondre à du personnel hostile. 44. Je suis à l'aise en entretien individuel. 45. En briefing, je n'ai aucun problème à laisser la parole. 46. On me consulte souvent. 47. J'abdique facilement si l'autre a raison. 48. Je préfère observer les débats qui participaient. 49. J'ai souvent l'impression de diriger les réunions, débats. 50. J'aime le rapport de force. 51. Si l'autre a de meilleures idées, arguments, je lui laisse facilement la direction. 52. J'écoute l'autre parce que j'ai de la considération pour lui. 53. Je sais mener mes équipes vers les objectifs que j'ai fixés. 54. J'ai l'impression que mon équipe n'ose pas tout me dire. 55. J'ai parfois du mal à rallier l'autre à mon point de vue. 56. Je facilite la prise de parole et l'innovation de mes subordonnés. 57. J'ai un esprit critique développé. 58. J'ai l'idée d'avoir du pouvoir sur l'autre. 59. Je viens facilement à bout d'arguments divergents. 60. Je suis loquace, extraverti. Comptez vos oui dans chaque catégorie. Style A, 1, 8, 10, 16, 18, 22, 25, 29, 33, 40, 43, 46, 49, 53, 59. Style B, 2, 7, 9, 15, 17, 21, 26, 28, 30, 32, 36, 41, 50, 54, 57. Style C, 3, 6, 11, 13, 19, 23, 31, 35, 38, 42, 45, 48, 51, 55, 58. Style D, 4, 5, 12, 14, 20, 24, 27, 34, 37, 39, 44, 47, 52, 56, 60. Puis, reportez ces résultats sur le schéma suivant en reliant ensuite les 4 points obtenus pour visualiser votre ou vos zones principales. Style A, le meneur, positif, plus aime l'action et les résultats, direct dans la communication, efficace à la tête d'une équipe. Moins, peut sembler brutal ou étouffé, ignorer les personnalités plus discrètes de l'équipe. Style B, le dogmatique, négatif, plus aime diriger, croit en ses capacités et en ses idées. Moins, tendance à rabaisser ses interlocuteurs, manque d'écoute, inflexibilité pouvant virer à la mauvaise foi. Style C, le figurant, négatif, plus sympathique, apprécié humainement par ses équipes, moins suiveur, manque d'autorité, de fermeté, ne s'impose pas et donc est moins pris au sérieux. Style D, le facilitateur, positif, plus communique avec bienveillance et équité, encourage la prise de parole, l'innovation, attentif, résolution des conflits. Moins, risque d'outrepasser sa fonction ou négliger ses priorités, micromanagement. Intégrer les grands principes du management. Inspirer des écrits de Henri Fayol, théoricien du management, voici les 14 principes fondamentaux qui doivent régir les ressources humaines d'un cabinet dentaire proactif et réaliste. Division de travail. La séparation des tâches administratives et cliniques et leur dévolution à du personnel qualifié et spécialisé rend chaque poste plus efficace. Plus clairement, l'assistante dentaire qualifiée n'est pas une secrétaire, une standardiste ou une comptable, et polyvalente ne signifie pas corvéable merci pour un salaire minimum. Autorité. Les dentistes managers doivent pouvoir donner les consignes. L'autorité de leur fonction doit être admise et respectée, mais ils doivent également en assumer la responsabilité en cas de mauvaise gestion. Discipline. Le respect des règles par tous est primordial. Une bonne discipline s'obtient par la combinaison d'une direction efficace, d'une absence d'ambiguïté entre supérieurs et subordonnés, et quant aux règles elles-mêmes, et d'un usage judicieux des pénalités ou sanctions liées à leur transgression. Unité de commandement. Chacune des assistantes, dentaires ou administratives, ne reçoit des consignes que d'un seul praticien à qui elle répond et qui justifie de ses compétences managériales. Unité de direction. Il n'y a qu'un responsable de la gestion stratégique au cabinet et qu'un seul programme visant un même but. Prééminence de l'intérêt général. L'intérêt individuel des employés comme des dirigeants doit toujours être subordonné à l'intérêt général du cabinet et ne peut prendre le pas sur celui-ci en cas de divergence. Rémunération juste. Les employés doivent être rémunérés de façon honnête et adéquate pour toutes les tâches effectuées. Encore une fois, une assistante dentaire assumant une partie du secrétariat, s'il ne peut être procédé autrement, doit être rémunérée équitablement pour cette tâche qui n'appartient pas à son rôle initial. Centralisation. La notion de centralisation se rapporte à l'équilibre entre recentralisation sur la direction et décentralisation vers les assistantes, des tâches comme des objectifs et des informations. Un audit peut s'avérer nécessaire. Hiérarchie. La chaîne de commandement qui s'étend de l'autorité aux agents et subordonnés doit être respectée tout en ne générant pas de perte de temps ou de surplus administratif inutile. Ordre. Chacun doit se trouver toujours au bon endroit au bon moment. Ponctualité, assiduité, communication, gestion du temps, organisation pratique et logistique. Équité. Les managers se montrent bienveillants et justes envers le personnel. Stabilité. Les dirigeants doivent être capables d'éviter le turnover du personnel qui révèle un manque de stratégie de la direction et de motivation des équipes et entraîne un manque d'efficacité du cabinet. Initiative. Les employés incités à participer au développement de leur entreprise ou à proposer, implémenter de nouvelles idées s'investissent davantage dans la réussite du cabinet. Union et solidarité. La promotion du travail d'équipe favorise la solidarité du personnel et l'harmonie relationnelle au sein du cabinet. Vu l'évolution du secteur dentaire, les praticiens aujourd'hui n'ont pas d'autre choix, on l'a dit et redit, que d'instaurer une culture orientée sur le patient en effectuant des améliorations continues sur le service clinique et administratif, comme sur un plan plus relationnel. Ils ne peuvent augmenter réellement les performances de leur cabinet que lorsqu'ils prennent conscience de ce que le comportement et les compétences de leur personnel sont déterminants pour la satisfaction et la fidélisation des patients, indépendamment des qualités du praticien lui-même. Recruter intelligemment. Le recrutement et la fidélisation du personnel, et notamment d'une assistante dentaire, peuvent s'avérer un parcours du combattant ou une source de stress importante, mais ce n'est pas seulement ou pas toujours à cause de la pénurie indéniable d'assistantes qualifiées. Le turnover s'explique souvent par un défaut à la base dans l'évaluation des besoins du praticien et dans ses exigences réelles au regard des conditions de travail qu'il propose, voire impose. Savoir définir un besoin. De nombreuses assistantes qualifiées interrogées par Crochet ont admis avoir quitté un poste au bout de seulement 3 à 6 mois pour le motif principal qu'il ne correspondait tout simplement pas à leur formation et à leurs compétences. En effet, on ne le répétera jamais assez, une assistante dentaire n'est pas une secrétaire ni une réceptionniste standardiste. Si certaines tâches administratives peuvent ponctuellement être prises en charge par l'assistante pour décharger le praticien ou d'autres membres de l'équipe, il ne doit pas s'agir de sa fonction principale et son salaire comme son temps de travail doivent correspondre à ce pourquoi elle a été embauchée. Si l'assistante dentaire qualifiée ne sert qu'à répondre au téléphone, organiser le planning du praticien, recevoir la patientèle, etc., et ce pour un SMIC ou à peine plus, il n'est pas étonnant de constater l'impossibilité de trouver la perle rare, illusoire traquée par de nombreux professionnels qui confondent polyvalente et corvéable à merci. Définissez donc le besoin réel de votre cabinet et embauchez du personnel administratif dédié pour les tâches ne concernant pas l'assistante dentaire. N'embauchez pas d'assistante dentaire qualifiée si vous n'avez aucune intention de la laisser travailler au fauteuil et vous assister concrètement dans le pratique dentaire. Il conviendra ensuite seulement de décider du mode de recrutement, soit par annonce, soit en interne, pour les cabinets déjà fournis en personnel ou vont faire évoluer un poste. Traiter les candidatures. Les critères de présélection se limitent trop souvent à la formation académique et à l'expérience. Ils devraient pourtant systématiquement inclure une étude comportementale et psychologique, même succincte, des candidats, ainsi qu'une analyse sérieuse de leur motivation. Ce sont en effet ces deux points qui, à compétences égales, feront la différence entre une assistante peu investie et une assistante fidèle et impliquée. Il convient ainsi de présélectionner les candidatures sur le CV et la lettre de motivation en tenant compte de ces quatre critères: savoir, savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir. Et surtout, ensuite, de préparer ces entretiens en accordant une importance accrue aux deux derniers critères qui n'apparaissent généralement que peu ou pas du tout dans les candidatures. Une grille personnelle peut être établie en amont, permettant de jauger plus rapidement et efficacement les CV et lettres reçues en distinguant critères essentiels, éliminatoires, formation, expérience, mobilité, disponibilité. Critères utiles, subjectifs et dont la véracité est vérifiable en entretien, aisance relationnelle, verbale, compréhension pratique. Critères subsidiaires, non indispensables au poste, mais pouvant faire la différence, connaissance d'un logiciel spécifique, expérience spécifique, centre d'intérêt ou vision commun. Cette grille, souvent incomplète à la lecture seule de la candidature, pourrait être complétée lors des entretiens. L'entretien de recrutement. Les entretiens se préparent autant, voire plus, par le recruteur que par le candidat. Quelques principes de base sont l'objectivité et l'équité, une même grille préparatoire et les mêmes conditions de lieu, de temps et de disponibilité pour tous les candidats, le respect, ponctualité, pas d'interruption de quelque nature que ce soit durant l'entretien, un créneau dédié et non une réception entre deux patients, un temps suffisant entre les entretiens pour éviter que les candidats ne se croisent. La rationalité, préparation en amont, choix pertinent des éventuelles personnes assistant à l'entretien, durée comprise entre 20 minutes minimum et 1 heure maximum. Enfin, outre la reprise, la confirmation des éléments apparaissant sur le CV et la lettre de motivation, Cochet recommande la mise en place d'une fiche raisonnée en fonction de vos spécificités pouvant comporter les questions suivantes dont les réponses attendues ou espérées pourront être anticipées afin d'établir le profil idéal et le comparer avec celui de vos candidats. Base, expérience précédente, poste, responsabilité, aspect préféré dans son précédent emploi et mesures éventuelles pour y remédier, raison de son départ, raison de son choix de métier, raison de sa candidature, ici précisément, connaissance du cabinet où il postule, de la concurrence, objectif de vie à long terme, situation de famille, stabilité, attente financière, opinion sur le déroulement de l'entretien, approfondissement, formation, matière favorite lors des études, pourquoi, travail pendant les études, activité associative ou sportive ou culturelle pendant les études, stage, expérience perso-professionnelle, entente avec ses supérieurs, avec ses collègues, référence par ses précédents employeurs, avis sur le fonctionnement du ou des cabinets précédents, motif réel de la candidature, ce que le candidat pense pouvoir apporter en fonction de ce qu'il sait du cabinet, situation précédente, durée de la recherche d'emploi, statut toujours employé ou au chômage, durée, projet de carrière, objectif professionnel à court et long terme, adéquation avec la situation familiale actuelle, avec la situation familiale prévisible à moyen terme, à long terme, avec les objectifs personnels ou familiaux. Comportement professionnel, perception et gestion de la hiérarchie, discipline, organisation, aptitude au travail en équipe, caractère de leader ou de suiveur, personnalité, gestion de conflits, forces et faiblesses admises, activité extra-professionnelle, sociabilité. Il est important de se former ou de se faire aider par un professionnel du management RH à l'identification des fausses motivations et à l'analyse de certaines réponses. Les raisons du départ du précédent emploi, par exemple, peuvent révéler une ambition appréciable et ou une conscience de sa valeur et une appréciation lucide de sa situation, mais également une mauvaise foi ou une insatisfaction chronique pouvant se retrouver dans le nouvel emploi, ou encore un manque de respect envers son précédent cabinet pouvant également se reproduire. Des réponses trop génériques ou trop enthousiastes quant à la présente candidature peuvent-elles être signe de candidature par défaut sans réel intérêt pour l'employeur pourvu qu'il y ait embauche et ainsi de suite. Il peut être intéressant de formaliser les informations recueillies sous forme de graphique sur un modèle de ce type. Exemple de présentation par pôle, relation aux autres 6, confiance en l'autre 4, ouverture à l'autre 5, intérêt pour l'autre 9. Stratégie relationnelle 4, caractère policier 4, modestie 5. Leadership influence 2,3, sens de la direction 1, pouvoir de persuasion 2, témérité sociale 4. Acceptation des autres 5,5, réceptivité à la critique 4, caractère participatif 7. Analyse 4,5. Rationalité 4, sens critique 5, rigueur intellectuelle 5, organisation 5, planification vision à long terme 5, sens du détail 5, rapport à la hiérarchie 8, indépendance d'esprit 2, respect des règles 9, pensée divergente 3,3, pensée conceptuelle 3, sens de l'innovation 1, ouverture au changement 6, tolérance à la frustration 4,5, recherche de stimulation 6, persévérance 6, émotion 3, décontraction 0, optimisme 4, contrôle émotionnel 5, caractère passionné 5,5, implication personnelle 6, sens de l'excellence 5, impact 2,7, lieu de contrôle 3, limite perçue, crainte de l'échec 7, aisance décisionnelle 3. Outre que pour certains, le graphique permet de visualiser plus clairement les résultats et de les synthétiser, la systématisation de ce type d'évaluation peut également permettre d'identifier plus rapidement les incompatibilités entre membres d'une équipe ou les raisons d'un conflit en les superposant. Prendre sa décision. La prise de décision doit être certaine, sans équivoque et jamais par défaut, quitte à convoquer une nouvelle série de candidats si aucun n'a semblé convenir. À l'inverse, si plusieurs candidats ont retenu l'attention, il est souhaitable de les convoquer à un second entretien où pourront par exemple être posées les questions d'approfondissement non abordées dans le premier, ou inclure un ou plusieurs autres membres du cabinet afin de renforcer ou tempérer les impressions du premier recruteur. Encadrer et motiver son personnel. Contrairement aux idées reçues, la motivation n'est pas fonction d'un trait de personnalité, mais bien le résultat de l'interaction entre votre personnel, la situation à laquelle il est confronté et vos modalités d'encadrement. La motivation professionnelle consiste donc précisément à la volonté de fournir un effort en vue de la réalisation des objectifs fixés par le praticien, volonté générée elle-même par la satisfaction de divers niveaux de besoins et objectifs personnels. Évaluation et compréhension de la motivation professionnelle. Un des éléments les plus souvent repris dans l'analyse des moteurs de motivation est la classique pyramide de Maslow, qui hiérarchise les besoins humains en une pyramide ascendante, chaque besoin devant être satisfait pour pouvoir laisser la place au suivant. 1. Besoins physiologiques, faim, soif, chaleur, repos. 2. Besoins de sécurité, protection physique et psychologique. 3. Besoins d'appartenance, être aimé, écouté, compris, estime des autres, faire partie d'un groupe, avoir un statut, 4. Besoin d'estime, sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur, conserver son identité. 5. Besoin de s'accomplir, développer ses connaissances, objectifs. Il est donc illusoire de vouloir prétendre susciter la moindre motivation professionnelle qui va s'appuyer sur les 3 derniers paliers si les 2 premiers ne sont pas satisfaits. Rémunération adéquate, sécurité de l'emploi, stabilité, environnement de travail, compatibilité des personnalités, respect des règles. Les spécialistes RH définissent généralement 4 pôles de motivation, s'appuyant chacun sur des besoins spécifiques qui se fondent sur la pyramide de Maslow en l'appliquant à l'environnement professionnel et aux divers profils de candidats et salariés et qui peuvent être évalués sur 10. Les motivations personnelles, besoins fondamentaux suivant la personnalité du salarié, besoin de sécurité, stabilité du poste, contrat sûr, équilibre vie personnelle, professionnelle, besoin d'activité, efficacité dans l'urgence, besoin d'être occupé en permanence, directif, besoin de dépassement, objectif élevé, efficacité dans les difficultés, besoin d'éthique, efficacité en accord avec les valeurs personnelles, le respect des règles, besoin de développement personnel, enrichissement intellectuel, sens profond du travail, les motivations relationnelles, besoins fondamentaux dans le rapport aux autres, collègues, patients, hiérarchie, besoin de contact, travail en équipe, relations avec les intervenants extérieurs, médiateurs, besoin de proximité, relations personnelles, amicales avec collègues ou patients, empathie, besoin de reconnaissance, cherche les marques d'estime, d'affection, d'utilité, besoin d'influence, meneur de projet, participation aux décisions, diriger une équipe, besoin de compétition, objectif commun avec résultats individuels, comparaison, les motivations structurelles, besoins fondamentaux liés à la tâche et au travail en lui-même, besoin d'organisation, cadre structuré, méthode et tâches définies, anticipation, besoin d'efficacité, résultats immédiats et visibles plutôt que les objectifs ou promesses, besoin de directives, encadrement, consignes claires et détaillées, besoin de feedback, commentaires réguliers sur le travail fourni et les résultats, besoin d'autonomie, choix des outils et méthodes, flexibilité des horaires, besoin de diversité, fuit la routine, s'ennuie vite, tâches variées, besoin d'enjeux commerciaux impliqués dans le développement du cabinet, moteur d'idées, les motivations extrinsèques, besoins secondaires mais ayant un impact décisif sur l'implantation et la fidélisation du personnel dans une structure à poste identique, rémunération, salaire fixe avantageux ou possibilité de primes, heures supplémentaires, évolution, possibilité de progresser, poste non figé, statut, intitulé du poste, statut cadre non cadre, valorisation de l'ancienneté. Connaître et fidéliser son personnel. Là encore, on peut donc réaliser le profil idéal et le comparer sous forme de charte en radar avec le profil des candidats ou réaliser le profil de ses employés et le comparer tant au profil attendu qu'entre eux pour éclaircir une possible démotivation ou des divergences entre la direction prise par le cabinet et les attentes du personnel. Exemple de présentation par pôle. Motivation personnelle, 4. Besoin de sécurité, 1. Besoin d'activité, 3. Besoin de dépassement, 6. Besoin d'éthique, 3. Besoin de développement personnel, 7. Leadership influence 5, besoin de contact 7, besoin de proximité 2, besoin de reconnaissance 5, besoin d'influence 7, besoin de compétition 4. Motivation liée à la tâche 4,7, besoin d'ordre d'organisation 1, besoin de visibilité immédiate 4, besoin de directives, 4, besoin de feedback, 6, besoin d'autonomie, 3, besoin de diversité, 7, besoin d'enjeux commerciaux, 8. Motivation extrinsèque, 4, rémunération, 3, évolution, 6, statut, 3. Les clés du succès vont donc tourner autour de la cohérence d'une équipe et d'un esprit d'équipe entretenu et renforcé consciemment par la hiérarchie à travers la fondation réfléchie de cette équipe en fonction de la compatibilité entre les membres avec la vision et les objectifs portés par le cabinet, une optimisation de la communication interne entre les membres avec la hiérarchie, avec briefing, lieu de l'anticipation, débriefing, lieu de la régulation, entretien individuel, bilan et perspective et réunion. Un investissement réel et pas de façade dans l'harmonie du cabinet et dans le respect des compétences et objectifs de chacun, une implication réelle dans son fonctionnement pour les employés. Une politique se fondant plutôt sur la récompense et l'encouragement du positif que sur la sanction du négatif, une collectivisation de la réussite plutôt que d'entretenir l'esprit de compétition et une politique de formation digne de ce nom qui apprendra à faire mieux ou faire comme je veux plutôt que de simplement constater ce qui est mal fait et attendre des employés qu'ils y remédient par eux-mêmes. Prévenir et gérer les conflits. L'une des compétences managériales les plus importantes est bien la capacité à anticiper, désamorcer et gérer un conflit, qu'il s'agisse de conflits d'intérêts, de responsabilités, de pouvoir entre les employés ou entre le praticien et son équipe. Cocher évalue à 20% le temps passé à prévenir ou à gérer un conflit pour les praticiens dentaires. Tous les conflits ne sont pourtant pas néfastes et peuvent parfois permettre de mettre le doigt sur des dysfonctionnements structurels ou managériaux plus profonds et parfaitement ajustables. Prévenir un conflit. Même si le degré de la notion de conflit peut varier et si certains demeurent inévitables, changements, difficultés, il est impératif de dresser le bilan social de votre cabinet et de le monitorer à la fois en traquant les signes ponctuels d'insatisfaction, ambiance, récrimination, manque de communication, hostilité latente ou déclarée, et en s'enquérant régulièrement de la position de chaque membre de l'équipe, avec par exemple un questionnaire mensuel ou trimestriel de ce type. Tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord, pas du tout d'accord. Organisation, perception de l'organisation. Le cabinet a déjà essayé de mettre en place des procédures d'optimisation de notre organisation. J'ai une vision claire et précise des perspectives de développement et d'avenir du cabinet. Je crois aux perspectives d'évolution de l'équipe. Ces perspectives m'inspirent confiance et me motivent. Environnement de travail. Les équipements, le matériel et le logiciel dont je dispose sont adaptés à mon travail. Je dispose de méthodes de travail claires et adaptées. Je dispose de matériel et d'outils performants facilitant mon exercice quotidien. Communication interne. Les briefings quotidiens sont respectés, heure, durée. Les débriefings quotidiens sont utiles. Le praticien en chef organise des réunions mensuelles. La communication au sein du cabinet me permet d'être plus efficace dans mon travail. Les protocoles et procédures dont j'ai besoin pour mener à bien mon travail sont facilement disponibles. Motivation, relation avec la hiérarchie. J'ai confiance en mon praticien en chef. Je peux compter sur le soutien de mon supérieur hiérarchique quand cela est nécessaire. Mon supérieur est disponible quand on a besoin de lui. Mon supérieur est exigeant et réaliste dans les objectifs qu'il nous fixe. Connaissance des objectifs. Je connais les objectifs du cabinet. J'ai une vision claire des objectifs qui m'ont été fixés. Mes objectifs et ceux de l'équipe sont cohérents. J'ai la possibilité de participer à la détermination de mes objectifs de travail. Évaluation de mon travail. Je comprends comment le travail que je fournis est évalué. J'estime que mon travail est évalué à sa juste valeur. Mon supérieur me donne régulièrement son avis sur mes performances. Mon supérieur me donne une évaluation constructive de mon travail, ce qui me permet de progresser. Respect et confiance. Mon praticien sera le premier à se préoccuper de moi si je rencontre des difficultés. Je me sens responsable de mes actes et décisions au sein du cabinet. J'ai confiance dans les personnes, collègues et praticiens collaborateurs qui travaillent au cabinet. Reconnaissance. Les efforts et le travail que j'ai accompli font l'objet de félicitations et ou d'une reconnaissance. D'après moi, il semble que le cabinet a su tirer des leçons de ses expériences de personnel. Démarche qualité. Adhésion à la démarche qualité. Je connais et comprends la démarche qualité du cabinet. Je me sens impliquée dans la démarche qualité. J'émets des idées, suggestions pour améliorer les prestations du cabinet envers nos patients. Je mesure les progrès réalisés dans notre organisation par la démarche qualité. Organisation. Je travaille en respectant scrupuleusement les procédures de travail. Au sein du cabinet, nous savons nous organiser et définir les procédures adéquates. Mesure. Le cabinet mesure régulièrement les résultats des actions que nous engageons. Management relations patients. Répondre aux attentes des patients est une priorité au sein du cabinet. Je suis informée du degré de satisfaction de nos patients vis-à-vis du travail que nous fournissons. Je comprends clairement les exigences de nos patients. Sensibilisation. Je suis sensibilisée à l'importance de me conformer à la politique qualité. Je connais bien mon rôle et mes responsabilités au sein du cabinet. Je suis consciente des conséquences que le non-respect des procédures, protocoles pourrait avoir sur la qualité. Initiative. On me permet de prendre suffisamment d'initiatives dans mon travail pour satisfaire le patient. Travail en équipe. Je mesure l'intérêt du travail en équipe. Dans notre cabinet, le travail en équipe est encouragé. Management. Climat. Il y a une très bonne ambiance au sein du cabinet. Le climat au sein du cabinet s'est amélioré depuis ces derniers mois, dernières années. Rémunération. Ma rémunération correspond à mes compétences. Ma rémunération est fonction de mes performances. Politique formation. Je connais les possibilités de formation auxquelles je peux accéder. Mon hiérarchique m'encourage et me donne les moyens pour progresser. Gestion des carrières. J'ai connaissance des possibilités d'évolution de carrière au sein du cabinet. Satisfaction. Mon travail me donne un sentiment de réalisation personnelle. Le contenu de mon travail s'est amélioré au cours de ces derniers mois, dernières années. Gérer un conflit. Pour pouvoir gérer un conflit, il faut d'abord en identifier les causes et s'il est évitable, gérable ou pas, ce qui évitera de perdre du temps et de l'énergie sur des conflits fondamentaux qui ne pourront pas se résoudre de façon satisfaisante. Conflit, démission, licenciement inévitable. Du fait du cabinet, déplacement du lieu de travail, fermeture du poste, licenciement économique, sanctions. du fait de l'employé, départ en congé individuel de formation, reprise d'études, création d'entreprise, raison familiale, départ en congé maternité, mutation du conjoint, raison médicale, retraite. Toutes les autres raisons pouvant être à l'origine d'un désaccord sont des motifs sur lesquels le management et la communication peuvent agir, comme parmi les plus courants, mauvaise relation avec les collègues, la hiérarchie, mauvaise ambiance, inadéquation de la rémunération, attente irréaliste de l'employé ou du praticien, travail sous pression, manque de reconnaissance, manque de perspective d'évolution, absence de moyens, outils, formation, routine, ennui, inadéquation du poste avec les compétences réelles. Si les stratégies managériales et une ligne claire pourront permettre de résoudre la plupart de ces conflits, la communication permettant de dépasser les récriminations immédiates et d'identifier les problèmes réels reste la base indispensable. Il est donc important de se former à la communication, à la gestion des personnalités difficiles, à un minimum de psychologie afin d'identifier les personnalités auxquelles nous pouvons être confrontés et de ne pas hésiter à faire appel à des professionnels extérieurs à l'entreprise et donc plus objectifs pour aider à la gestion des conflits afin d'éviter le repli sur ses positions et l'enlisement dû au refus de se remettre en cause, généralement engendré par les conflits qui s'éternisent. En conclusion, Cochet rappelle que la pierre angulaire du management RH est d'abord le respect scrupuleux des règles du jeu, qu'il s'agisse de la sécurité, de l'hygiène, des droits et conditions de travail ou de ce qui touche à la discrimination, quelle qu'elle soit. Contourner ces règles et entraîner, sciemment ou pas, son personnel avec soi, c'est s'assurer d'un contexte inadéquat au départ, comme de bâtir sa maison sur des fondations bancales ou avec du bois pourrissant. Il ne faut pas s'étonner de son effondrement à moyen terme ou de son délabrement permanent. La formation académique étant, à tout le moins, insuffisante sur ce point, il est donc important de se former personnellement sur l'ensemble des obligations légales du cabinet en matière de sécurité, d'accessibilité et d'affichage, ainsi que sur les fondamentaux du droit de travail quant aux collaborations et ruptures de collaboration dans le cadre du cabinet. Seul un respect scrupuleux de ces règles permettra la mise en place d'une relation de travail satisfaisante et surtout inattaquable par la suite. Le respect des règles, un recrutement réfléchi et préparé en amont, une vraie connaissance de ses équipes et de leurs attentes, et une maîtrise des stratégies de motivation de son personnel sont ainsi les clés de l'équipe gagnante, telles que définies par Rodolphe Cochet.